Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, bonjour Général Richard Désuret.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL, vous êtes le nouveau patron de notre gendarmerie nationale. Merci d'avoir choisi RTL pour votre première prise de parole à la radio. Et je vous confie à Elisabeth Martichoux.
Et à mon tour de vous dire bonjour Général Richard Désuret. Dans ce studio, en effet, on est ravis de vous accueillir puisque vous êtes depuis le 1er septembre, depuis un mois à la tête de 125 000 hommes et femmes en tant que directeur général de la gendarmerie nationale. Vous succédez à Denis Favier, qui a été un héros du GIGN, un patron très emblématique. C'est difficile de lui succéder ?
C'est toujours un défi, bien entendu, de succéder à un homme d'exception. Et je lui rends hommage, effectivement, parce que le travail qu'il a fait est un travail en profondeur. Il a permis de positionner la gendarmerie nationale à une place qu'elle n'avait jamais occupée. En tout cas, elle est reconnue aujourd'hui dans le spectre de la sécurité intérieure. Il a conduit un certain nombre de réformes que je vais bien entendu poursuivre. Et en tout cas, la dynamique qu'il a engagée sera poursuivie.
Alors, une dynamique d'autant plus nécessaire que la France est sous le coup d'une menace terroriste. Est-ce que vous estimez ce matin que le niveau de menace est toujours aussi important ?
Le niveau de menace est à son maximum, comme le disait effectivement récemment encore le Premier ministre. La menace terroriste n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. Et je crois que ce qui fait la caractéristique de la situation actuelle, c'est finalement la capacité des terroristes de frapper l'ensemble du territoire avec des moyens qui parfois sont des moyens extrêmement rudimentaires, du type couteau de cuisine vers la Kalachnikov. Donc on a vraiment là une vision nouvelle du terrorisme qui oblige à s'organiser pour y apporter une réponse collective.
Alors vous, les gendarmes, vous semblez, vous êtes moins en première ligne que ne semble l'être la police. Est-ce que vous le regrettez ? Dans cette lutte antiterroriste, précisément.
On ne peut pas dire qu'on soit moins en première ligne, parce que le terrorisme, finalement, c'est une menace, comme je le disais, qui est sur l'ensemble du territoire. Il nous faut donc nous organiser pour capter les signaux faibles, pour, dans la profondeur du territoire, recueillir du renseignement. Et ça, c'est notre rôle à nous. Nous sommes chargés de recueillir le renseignement pour ensuite l'analyser, l'exploiter et le transmettre aux services spécialisés.
Donc vous faites un travail de fourmi, comme le fait la gendarmerie en général dans le team, sur les travaux d'enquête. Mais là, dans la lutte antiterroriste, vous recueillez du renseignement dans toutes les petites brigades de province et de région, par exemple. Vous avez quel résultat ? Vous pouvez nous donner des exemples ?
Alors nous avons l'ensemble des brigades qui sont effectivement engagées, l'ensemble des réservistes qui sont engagés également, parce qu'ils vivent au cœur de la société.
On va en parler.
On a donc un certain nombre de renseignements qui parviennent avec des personnes qui peuvent se radicaliser, que la brigade voit se radicaliser, et ces personnes sont ensuite identifiées et les informations sont transmises aux services spécialisés. Donc on a régulièrement un certain nombre d'informations que nous transmettons aux services. Nous avons d'ailleurs en propre le suivi de 500 personnes qui, globalement, pourraient présenter une menace particulière.
Alors c'est vrai que le renseignement, dans cette guerre-là, si je puis dire, contre le terrorisme, c'est le nerf de la guerre, vous en faites, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, comme pour la police, comme ça existe, un service dédié au sein de la gendarmerie pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que ça ne vous manque pas, un service dédié ?
Nous avons une capacité de renseignement, donc une sous-direction de l'anticipation opérationnelle, mais je crois que ce qui est important dans le renseignement, comme je le disais, c'est de partager. Dans la culture du renseignement, il faut passer du besoin d'en connaître au devoir d'en partager. Et le devoir d'en partager, c'est le service central de renseignement territorial auquel nous contribuons. C'est un service partagé pour les gendarmeries. C'est aussi...
Donc vous ne souhaitez pas qu'il y ait une entité propre à la gendarmerie chargée de l'antiterrorisme ? Ça ne vous paraît pas pertinent ?
Non, je crois que, encore une fois, il nous faut des capacités. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de structures qui font ce renseignement, qui font cette recherche, mais il faut partager. Et il faut que nous contribuions ensemble à ce combat commun, en fait.
Alors, justement, au titre du partage, est-ce que vous êtes suffisamment associé à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui mène les enquêtes ? Est-ce que les gendarmes sont au cœur, là, du système ?
Aujourd'hui, nous n'avons pas de gendarmes en tant que tels au sein de la DGSI, qui est encore une direction générale nouvelle, mais nous avons, encore une fois, des processus de partage d'informations qui sont mis en place, avec, là aussi, la volonté de progresser. Peut-être que demain, nous aurons effectivement un certain nombre de personnels de la gendarmerie au sein de la DGSI, mais ce qui est important, ce n'est pas le statut, c'est le processus et la volonté de travailler ensemble.
Mais justement, il y a une volonté, mais j'insiste, est-ce que ce ne serait pas souhaitable ? Est-ce que vous n'émettez pas le vœu que, sous votre direction, la DGSI associe davantage les gendarmes à ce travail d'enquête ? Compte tenu de votre maillage, compte tenu de votre expérience, compte tenu de la compétence de la gendarmerie ?
La DGSI, c'est le haut du spectre. Bien entendu, il nous faudra trouver les moyens de contribuer davantage encore à son travail, qui est déjà efficace. Mais comme je vous le disais, nous sommes déjà associés finalement à cette démarche globale de recherche du renseignement.
Pour la démarche globale. Général, il y a eu une polémique au Bataclan, j'aimerais qu'on y revienne quelques instants rapidement, liée au fait qu'un gendarme sur place n'aurait pas usé de son arme parce que c'était la police qui opérait. Est-ce que ça pourrait se reproduire ? Est-ce que si un gendarme aujourd'hui se trouve sur les lieux d'une attaque aussi stupéfiante, sans que ce soit sa zone d'intervention, est-ce qu'il pourrait néanmoins réagir ou est-ce que la guéguerre de territoire l'en empêcherait ?
Alors, je crois qu'autour du Bataclan, il y a eu une polémique qui a été effectivement animée, médiatisée par un certain nombre de gens qui n'étaient pas au courant, qui ne savaient pas. C'est un peu le principe de celui qui sait ne parle pas et celui qui parle ne sait pas, vous voyez. Je crois qu'au-delà de ça, nous avons aujourd'hui, là aussi, en intervention, quelque chose qui a été mis en place par le ministre de l'Intérieur, le schéma national d'intervention, qui permet justement, comme vous le disiez parfaitement, de remporter une bataille contre le terrorisme par le fait de faire agir les gens qui sont le plus proches. Aujourd'hui, les zones de compétence en cas d'attaque terroriste n'existent plus. C'est le dispositif le plus proche qui intervient. Et le schéma national d'intervention, encore une fois, qui a été mis en place par le ministre de l'Intérieur, répond parfaitement.
Donc c'est parfaitement cadré aujourd'hui.
Oui, tout à fait. On a fait d'ailleurs des exercices. Et les dernières alertes, notamment celle près des Halles qui a eu lieu il y a quelques jours, a permis de montrer et de démontrer finalement cette capacité de diffusion de l'information instantanée à l'ensemble des services et d'action de l'ensemble des structures engagées.
On en parlait sur RTL ce matin, afflux de réservistes, en particulier depuis les attentats. Combien sont sur le terrain à vos côtés chaque jour ?
Chaque jour, nous avons actuellement 3000 personnels de réserve, des hommes et des femmes qui s'engagent sur un potentiel total de 28 500, mais évidemment, ce sont des réservistes qui ne sont pas engagés toute l'année. Mais tous les jours, nous avons à côté de nous, avec nous, 3000 hommes et femmes qui finalement s'engagent dans le service public.
Et avec un objectif de 40 000 d'ici quelques années.
D'ici fin 2018, un objectif de 40 000, tout à fait, pour renforcer là aussi et pour avoir tous les jours 4 000 personnels sur le terrain.
Ce sont des civils aujourd'hui qui viennent vers vous, en particulier de 17 à 40 ans maintenant, hein, la limite d'âge a été reculée. 40 ans, ça vous paraît être, on va dire, le bon niveau.
On pourra 40 aller ans, on est encore en pleine forme à 40 ans.
Justement,
c'est
pour
jeune,
aller jusqu'à 50 ans.
Mais on a d'ailleurs, on va également assouplir cette règle des 40 ans, parce que je crois qu'il est important aussi de permettre à tous ceux et toutes celles qui veulent s'engager, quel que soit leur âge, dès lors qu'ils sont en condition physique, c'est quand même la base, de pouvoir s'engager. Donc on va aussi assouplir cette règle des 40 ans, parce que c'est important d'accompagner cet élan citoyen et d'accueillir avec nous, chez nous.
Assouplir, vous pouvez préciser ?
Ben, l'idée, c'est effectivement 40 ans, si quelqu'un a 41, 42, 43, qu'il est en forme, ainsi de suite, ben, naturellement.
C'est pas à l'unité près.
C'est pas à l'unité
ce
près, voilà, tout à fait.
C'est pas jusqu'à 60 ans, néanmoins. On va pas faire le grand saut, le grand bond en avant.
Oui, voilà, après, il faut malgré tout, à un moment donné, rester raisonnable.
Formation de quelques semaines, hein, ça va passer de 15 à je crois, un mois maintenant,
à 4 semaines, tout à fait,
hein, pour cette formation. Une enquête est faite sur chaque individu, sur chaque
volontaire. Il y a effectivement des précautions qui sont prises, naturellement, pour éviter de se faire infiltrer par un certain nombre de fauteurs de troubles, bien entendu. Et donc, nous vérifions qu'un certain nombre de candidats ou que les candidats ne soient pas dans une...
Est-ce qu'il y a un risque d'infiltration ? Puisque c'est ça la question.
Bien sûr, tout à fait. Il faut aussi se prémunir. Alors, soit dans la réserve d'ailleurs, soit dans les personnels d'actifs, dans le cadre de nos recrutements, quels qu'ils soient, nous prenons des précautions pour vérifier que nous ne soyons pas infiltrés.
Et vous avez déjà eu à récuser des volontaires parce que, manifestement, il y avait ce risque-là ?
Il y a déjà eu effectivement quelques exemples. Nous avons aussi des exemples en interne de radicalisation, parce que malheureusement la nature humaine est ainsi faite, et nous arrivons là aussi à prendre des mesures pour justement éloigner cette menace.
Ouais. Il y a eu précisément, alors pas dans le corps des réservistes, mais dans le corps de la gendarmerie nationale, on a découvert il y a quelques semaines le cas d'une jeune femme radicalisée qui s'était infiltrée dans vos services. Elle a été démasquée, fort heureusement. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas ?
Aujourd'hui, il y a quelques cas, effectivement, que nous détectons, que nous suivons, que nous traitons, parce que là aussi, il faut d'abord arriver à déterminer exactement quel est le niveau de radicalisation au niveau de la menace, et ensuite prendre les moyens appropriés pour, évidemment, exclure ces personnes qui n'ont pas leur place.
Quelques cas,
public.
Pour être précis, pour informer
dizaine,
nos auditeurs.
Une dizaine, globalement une dizaine.
Une dizaine de cas de personnes
voilà,
qui...
Sur 125 000 personnes, bon, ça reste quand même raisonnable.
Que vous avez réussi à désamorcer. Voilà, à temps. Pour cette jeune femme, c'était vraiment juste avant qu'elle ne quitte la Syrie après avoir transmis des renseignements ou tenté de le faire sur les fichiers S notamment. Général, un mot de l'affaire Traoré. La famille d'Adama Traoré réclame toujours que la lumière soit faite sur la mort de ce garçon de 20 ans à Beaumont-sur-Oise après son arrestation par les gendarmes le 19 juillet. D'ailleurs, la sœur d'Adama Traoré, hier soir sur Canal+, a lancé un appel à François Hollande pour que, avec elle, il s'associe à la demande de clarté. Qu'est-ce que vous lui dites ? Est-ce qu'elle a des raisons de demander que les faits soient établis plus clairement ?
D'abord, le décès d'un homme, c'est toujours un drame. Moi, je m'incline devant la douleur de la famille, je la respecte. J'observe que la justice est saisie, donc je pense que le souhait de cette dame sera exaucé, puisque la justice a bien dans l'ambition et dans son objectif de faire toute la lumière sur cette affaire. J'observe là aussi que les différentes dispositions sont prises par les magistrats en charge pour faire valoir la vérité.
Un rapport de l'inspection générale de la gendarmerie nationale révèle que les gendarmes n'ont pas réagi à temps alors que le jeune homme a fait un malaise. Est-ce que vous pensez que des erreurs ont pu être commises ?
Alors, le rapport, la partie du rapport qui a été diffusée est une partie minime. Donc, je ne peux pas la rentrer dans le détail de l'enquête, bien entendu. J'ai couvert par le secret d'instruction. J'observe qu'à l'occasion des deux autopsies, il n'a pas été mis en exergue de violence à l'égard de la victime.
Non, on parle d'un manque de réaction alors que le jeune homme était à terre, la tête contre le sol, et qu'il semblait déjà mal. Et un gendarme aurait dit non, il va bien.
Alors, ça, c'est ce qui est effectivement rapporté par les avocats, mais on est dans une petite partie de la réalité totale, et je crois qu'il faut attendre que la justice prenne ses décisions et fasse la lumière sur cette affaire.
Et vous promettez à la famille donc qu'elle sera faite, évidemment.
C'est le rôle de la justice, bien entendu. Là-dessus, nous respectons parfaitement l'autorité judiciaire.
Merci beaucoup, Général, d'avoir été ce matin dans le studio d'RTL.
Le niveau de menace terroriste est à son maximum, confirme le nouveau directeur général de la police nationale. 500 personnes sont d'ailleurs suivies grâce au maillage de nos gendarmeries sur le territoire et 3000 réservistes, hommes et femmes, ont donc bien rejoint la réserve de la gendarmerie. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.